Bonjour à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins.
Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit au fantôme ? Ici, le fantôme, c'est moi.
Nouveaux Chemins vous accompagne du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Et pour continuer cette semaine américaine ou comment les États-Unis d'Amérique sont vus et pensés par les philosophes, après Tocqueville lundi et Emerson et Stanley Cavell hier, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur d'études américaines à Paris-Ouest François Cusset qui vient retracer pour vous l'étrange destin que quelques philosophes français des années 60 et 70 ont connu de l'autre côté de l'Atlantique ou ce que l'on nomme la French Theory. Bonjour à vous François Cusset.
Bonjour.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Dès lors qu'on me demande de jouer mon propre rôle dans un scénario filmique plus ou moins improvisé, j'ai l'impression de laisser parler un fantôme à ma place. Vous savez, Freud... toute sa vie a eu affaire au problème du fantôme. Voilà, le téléphone, c'est le fantôme. Je vais. Allô? Yes. 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 There will be a small seminar tomorrow afternoon. It's a kind of closed seminar, but you may come if you want. At 4:15 PM, salle des résistants. Okay, I'll be very glad to meet you.
Alors, parmi nous se trouve le fantôme de Derrida. François Cusset, vous ne vous y attendiez pas, mais son esprit règne encore parmi nous. Et vous, dans votre livre que vous avez consacré à la French Theory, Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie, les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis qu'on trouve aux éditions de La Découverte, vous ouvrez cet ouvrage en comparant peut-être Derrida avec Clint Eastwood, comme si Eastwood, dont on a entendu la voix, hein, serait ou Derrida serait le Eastwood de la philosophie aux États-Unis. C'est comme ça qu'on le comprend.
Alors effectivement, ni Clint Eastwood ni Jacques Derrida sont vraiment des fantômes. Il faut se souvenir que les fantômes, c'est des corps. C'est des corps autant que des esprits. Hein. C'est des corps un peu incertains, on ne sait pas s'ils sont là ou pas là, mais il y a aussi du corps. Oui, je me suis amusé, parce que moi, quand j'ai découvert le phénomène de la French Theory, qui est donc l'invention aux États-Unis par des universitaires américains d'un groupe cohérent, qui n'était pas en fait cohérent au départ, de philosophes français, effectivement, des années 60-70, des noms familiers maintenant, mais qui l'étaient moins en fait à l'époque, donc Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, mais aussi Jacques Lacan, Roland Barthes, etc., et qui en sont venus à former aux États-Unis donc un groupe, un ensemble de propositions théoriques, philosophiques, politiques aussi, alors que c'était pas leur idée, un phénomène de mode, extrêmement puissant, enfin qui était vraiment un des grands phénomènes de mode intellectuelle de la fin du XXe siècle. Cette French Theory n'existe pas en France. C'est vraiment un produit d'invention américain, je dis produit presque délibérément, puisqu'on connaît l'art du marketing et de l'invention, de labellisation des Américains, y compris des universitaires américains. Donc quand j'ai découvert moi la notoriété stupéfiante de ces gens, parce qu'il faut bien comprendre, moi j'ai vécu aux États-Unis, j'étais là-bas, je représentais les éditeurs français, je vendais à des Américains les droits de nos livres, et quand j'ai découvert le phénomène, j'ai ne comprenais pas pourquoi ces Américains voulaient à tout prix acheter les droits d'auteurs aussi, pour moi, illisible, imbitable, passionnant, mais mais vraiment pour des cagneux que sont effectivement voilà Derrida ou Deleuze. Donc j'ai découvert le phénomène comme un phénomène de pure notoriété, de vedettariat. Et d'où voilà d'où l'ouverture du livre sur une sorte de comparaison entre des acteurs de western célèbres. Donc je, effectivement Derrida en Eastwood, Deleuze et Guattari pourraient être Paul Newman et Robert Redford dans Butch Cassidy.
Ça fonctionne très bien, je veux dire, hein, les comparaisons que vous établissez. Mais alors justement, puisqu'on a commencé avec Derrida, il y a une forme de mystère Derrida, dites-vous. C'est-à-dire qu'il est considéré non pas comme un philosophe très connu là-bas, mais comme une star à proprement parler, voire même comme un saint. Il y a une espèce de sanctification de Derrida en terre universitaire américaine.
Alors, d'abord, justement, pour modérer la chose, il faut rappeler que c'est aussi les haines qu'il a suscité, les controverses immenses, la méfiance, on en parlera, immense des philosophes, des historiens, de tout ce qui n'est pas littéraire, en fait, pour la déconstruction et pour Derrida, qui l'ont rendu célèbre. C'est donc à force aussi d'hostilité qu'il est devenu célèbre. Quant à ses fans, oui, ils sont beaucoup plus nombreux qu'en France. Ses conférences des années...
Mais c'est le prix de la popularité, hein, c'est d'avoir aussi des ennemis, sinon on n'est pas, justement, on n'est pas populaire.
Oui, puis c'est le système universitaire américain, c'est-à-dire qu'on achète à grand prix le conférencier du moment, l'idée étant de proposer aux étudiants qui veulent s'inscrire dans cette université un programme subversif, marrant, sexy, nouveau, qui sera en quelque sorte validé par la présence de la star en début de semestre.
Alors, programme subversif, marrant, sexy, nouveau, à voir. Écoutons Derrida.
La trace n'est pas seulement la disparition de l'origine. Elle veut dire ici, dans le discours que nous tenons et selon le parcours que nous suivons, que l'origine n'a même pas disparu. Qu'elle n'a jamais été constituée qu'en retour par une non-origine, la trace, qui devient ainsi l'origine de l'origine. Dès lors, pour arracher le concept de trace au schéma classique qui la ferait dériver d'une présence ou d'une non-trace originaire et qui en ferait une marque empirique, il faut bien parler de trace originaire ou d'architrace. Et pourtant, nous savons que ce concept détruit son nom et que si tout commence par la trace, il n'y a surtout pas de trace originaire. La trace est en effet l'origine absolue du sens en général, ce qui revient à dire, encore une fois, qu'il n'y a pas d'origine absolue du sens en général. La trace est la différence qui ouvre l'apparaître et la signification. Articulant le vivant sur le non-vivant en général, origine de toute répétition, origine de l'idéalité, elle n'est pas plus idéale que réelle, pas plus intelligible que sensible, pas plus une signification transparente qu'une énergie opaque, et aucun concept de la métaphysique ne peut la décrire.
Lorsque je l'ai rencontré la première fois, il écrit sur notre rencontre dans la carte postale, parce que il s'agissait à ce moment-là d'un colloque sur un tout petit colloque sur Céline, donc. Et il y avait Derrida, c'est la première fois que je l'ai vu comme mortel, quoi, comme un être qui n'était pas seulement une rumeur et un texte. Et donc, j'ai fait une intervention et après cette intervention, il m'a demandé qui j'étais. Et j'étais à cette époque-là une espèce d'adolescente intellectuelle, vraiment un teenager, très jeune et très, très inquiète. Et je ne savais pas qu'il allait être là. Et donc, j'ai hésité à me présenter parce que je me suis dit, mais je vais pas lui dire mon nom quand même, c'est ridicule, c'est quoi? Puis, j'ai dit, comment? Vous me reconnaissez pas? Et je suis devenue, du coup, autoritaire et très théâtrale. Et il a eu un peu peur parce que il y avait une espèce de changement d'attitude ou de présentation. Et j'ai dit, comment? C'est vrai, vous me reconnaissez pas, mais c'est moi la métaphysique. Et puis, lorsque je me suis annoncée comme la métaphysique, il m'a reconnue, pour ainsi dire. Et pendant plusieurs années, lorsque je suis venue à Paris, après ça, tout le monde m'a appelée métaphysique.
C'est la philosophe Avital Ronel qui raconte sa première rencontre avec Derrida et qui suit un extrait de la lecture de l'ouvrage de Derrida, de la grammatologie par lui-même. Un extrait, on l'entend, très touffu, très dense. Hein. La trace serait l'origine absolue du sens. Or, la trace ne pouvant être elle-même originelle, alors elle n'est pas l'origine absolue du sens. Comment on explique un philosophe aussi technique qui présuppose beaucoup de la part de son auditeur pour comprendre ce qu'il veut dire, puisse avoir rencontré un tel succès, François Cusset?
Alors, Il y a plein de choses dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, de façon un peu anecdotique, effectivement, l'extrait de David Al-Ronell nous rappelle un peu comment ça a marché, cette réception américaine, c'est-à-dire en faisant des personnages à la fois des philosophes, de leurs concepts eux-mêmes, puis là, qu'elle incarne la métaphysique, qu'elle lui dit « je suis la métaphysique, donc viens me critiquer, me déconstruire, puisque c'est ça qu'il fait, ou m'embrasser ». Tout ça, voilà, on voit le niveau de védétariat, et là aussi, c'est comme s'il avait été mis en présence du Bouddha, d'une sorte d'être vénérable.
Elle dit « j'ai rencontré l'être vivant ».
Elle l'a vraiment vu. Bon, après, l'extrait qu'on a entendu, effectivement, du point de vue formel, il y a une difficulté technique de cette théorie de la déconstruction de l'écriture, du sens, de la vérité qui toujours échappe, le signifiant, il y en a toujours trop. Donc du coup, le sens ne passe jamais, le sens se déplace, le sens est contourné, le sens ne cesse de se démultiplier au lieu de s'univociser. Enfin, il est toujours équivoque, il n'est jamais univoque. Bon, toute la théorie derridienne du sens... Moi, je voudrais commenter ce petit extrait de Derrida en faisant même, je dirais, le programme de la théorie française aux États-Unis. C'est-à-dire, en fait, ce qui obsède Derrida...
Donc, théorie française, c'est la traduction que vous proposez de French Theory, pour éviter de...
Ouais. Ce qui obsède Derrida, on l'entend bien là, et dans la centaine de livres qu'il a écrits, c'est une sorte de méfiance vis-à-vis des philosophies ou des théories de la transparence, de la présence directe, du sens univoque, de l'écriture compréhensible, de tout ce qui serait là, dont on n'a, selon lui, aucune preuve de la présence, donc il ne cesse de différer. Et on entend bien là que c'est l'origine qui lui pose problème, c'est le fait de régresser sans fin vers l'origine du sens. Et on pourrait alors là élargir la question à celle de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie dont vous vous occupez toute la semaine dans cette émission? C'est quand même une discipline obsédée par cette régression vers le texte d'avant, vers ce qu'a dit le philosophe ancien du concept qu'on est en train de discuter. Donc il y a une régression sans fin vers ces sources qu'on va essayer de déplacer, de renouveler ou de réinventer. Mais la philosophie est plus habituée à aller vers ses causes, vers ses origines, vers ses grands auteurs, qu'à s'intéresser aux effets éventuels qu'elle pourrait avoir. L'histoire de la French
Theory... Dans une certaine histoire de la philosophie, en tout cas, oui, jusqu'à un certain...
La philosophie scolaire, la philosophie de la terminale, la philosophie de la grecque...
Mais certains philosophes ne sont pas obsédés par les origines, au contraire. Ils pensent plutôt à essayer de reconstruire sur une table rase une nouvelle manière de penser.
Oui, mais que fait un philosophe? Sinon, pour commencer, alors c'est vrai qu'il y en a après qui font autre chose, mais pour commencer, critiquer, discuter sans fin les textes des anciens. Enfin, je veux dire, c'est vraiment comme pratique du texte, c'est une discussion sur les textes anciens. C'est ça la philosophie, comme peut l'être d'ailleurs d'une certaine manière la théologie, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire de la French Theory, c'est que c'est la philosophie qui n'est plus obsession des causes et régression vers les sources, c'est la philosophie qui est production des faits, mais des faits pratiques. On arrête avec l'avant et la cause, on passe vers l'après. Et on se rend compte, de façon plus ou moins sérieuse, hein, plus ou moins anecdotique, je suis prêt à critiquer tout ça, que la philosophie peut produire des effets extra-philosophiques, que la philosophie peut inspirer des DJ de musique électronique, des centaines de thèses d'étudiants plus ou moins échevelés aux États-Unis, des œuvres théoriques puissantes, tout à fait différentes de celles de Derrida, mais pourtant inspirées par elles, comme celles de Judith Butler ou du marxiste Frederick Jameson. Vous voyez, la théorie a produit des effets, et donc c'est une histoire de pratique. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. On sait que la seule école philosophique proprement américaine, le seul courant américain, c'est le pragmatisme. Tout le reste, c'est des importations d'Europe. Hein, William James, quand il a créé le pragmatisme au 19e siècle, a dit... C'est la déclaration d'indépendance des États-Unis en matière intellectuelle. Nous, on sera pragmatistes.
Alors ça, on l'a vu hier avec Ralph Waldo Emerson. Cet appel à l'indépendance intellectuelle et la philosophie américaine, c'était en 1836, à Harvard, dans le courant du perfectionnisme moral, couvre Emerson à ce moment-là.
Voilà, absolument.
Et dont le pragmatisme peut, dans une certaine mesure, être considéré comme l'héritier.
Oui, sauf que là, on n'est plus dans l'indépendance intellectuelle, on est dans une nouvelle affaire d'importation. Sauf que c'est une importation qui est plutôt une invention locale. C'est-à-dire qu'à partir de ça, on va inventer des usages du texte philosophique, des mises en scène littéraires, théâtrales, dramatiques, parce qu'il y a une dramatisation de la philosophie. Le succès de Derrida aux États-Unis, c'est aussi une dramatisation de ces histoires de déplacement, de différence, d'exorbitance. Tout ça est dramatique, tout ça nous parle directement. Le mot déconstruction, ça, tout le monde, les gens ne le croient pas, mais le mot déconstruction a rejoint la langue courante américaine. En anglais, on dit deconstructing. On peut avoir un animateur télé qui dit deconstructing.
C'est le titre d'un film de Woody Allen, Deconstructing Harry.
Voilà, qui a été traduit en français par Harry dans tous ses états, parce que déconstruction en français, ça ne veut rien dire, sauf pour les spécialistes de Derrida.
Pour parler de la déconstruction en Amérique, il faudrait prétendre savoir de quoi on parle. Et d'abord, ce qu'on entend ou délimite sous le mot Amérique. Or, qu'est-ce que l'Amérique dans ce contexte? Si j'étais moins souvent associé à cette aventure de la déconstruction, Je risquerai, en souriant modestement, cette hypothèse. L'Amérique, mais c'est la déconstruction. Ce serait, dans cette hypothèse, le nom propre de la déconstruction en cours, son nom de famille, sa toponymie, sa langue et son lieu, sa résidence principale. Comment définir les États-Unis aujourd'hui sans intégrer ceci dans la description ? L'espace historique qui, aujourd'hui, dans toutes ses dimensions et à travers tous ses jeux de force, se montre incontestablement le plus sensible, le plus réceptif ou le plus réactif devant les thèmes et les effets de la déconstruction. Comme un tel espace représente et met en scène à cet égard la plus grande concentration au monde, on ne saurait le définir sans que la définition n'intègre au moins ce symptôme, si du moins on pouvait parler de symptôme. Dans la guerre qui fait rage au sujet de la déconstruction, il n'y a pas un front, il n'y a pas de front. Mais s'il y en avait, ils passeraient tous par les États-Unis. Ils définiraient le lot et, en vérité, le partage américain. Mais nous avons appris de la déconstruction à suspendre ses attributions toujours hâtives de nom propre. Il nous faut donc abandonner l'hypothèse. Non. Déconstruction n'est pas un nom propre et Amérique n'est pas le sien.
Le succès des philosophes dits de la French Theory, François Cusset, s'explique-t-il par le contenu même de leurs pensées ? Auxquels les étudiants en philosophie de l'époque étaient particulièrement sensibles, ou bien par le caractère ou justement les éléments déterminants de cette culture américaine qui s'était rendue particulièrement réceptif à une manière d'enseigner, à ses personnalités. La question se pose à l'écoute de ce texte où Derrida dit l'Amérique, c'est la déconstruction, comme si finalement il y avait tout un continent qui correspondait au concept que lui-même propose, même si à la fin du texte, il semble dire exactement l'inverse. Alors éclairez-nous.
Il y a deux choses dans cette citation. Il y a d'abord tout simplement le fait que, de façon très roublarde et farceuse, Derrida dit le contraire de ce qu'il vient de dire, Didine plus loin.
C'est de l'humour, vous pensez ?
En tout cas, non, c'est un jeu de paradoxe et de déplacement du sens, justement. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais être sûr de ce qu'on dit et ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que puisque la pratique américaine en matière intellectuelle et universitaire, c'est une pratique de la citation, de l'extrait, de la segmentation, de l'objet trouvé. Vous voyez, un peu comme font les DJ avec leurs morceaux de musique. Et que du coup, on lit rarement des livres entiers de philosophes, mais des extraits, des anthologies, etc. La citation, l'Amérique, mais c'est la déconstruction, en est venue à résumer Derrida et à résumer l'Amérique, sans qu'on lise que 10 lignes plus loin, ça n'est finalement pas le cas et que l'Amérique n'est pas la déconstruction. Maintenant, il y a un autre aspect, moi, qui m'intéresse beaucoup et qui est un peu plus compliqué, qui est... Est-ce que ces philosophes français, Derrida, mais aussi Deleuze,
oui, on va venir aux autres, hein, parce que ce n'est pas que Derrida.
Directement ou indirectement, réellement ou métaphoriquement, ne parleraient-ils pas de l'Amérique ? Est-ce que l'objet, l'un des objets possibles de leur œuvre théorique n'est pas le chaos du sens, le chaos contemporain, qui est aussi un chaos capitaliste, qui est aussi un chaos relativiste, où toutes les valeurs, les valeurs bien fondées d'autrefois, sont déstabilisées ? Est-ce que, du coup, ils ne sont pas en train de traiter un objet qui ressemble à l'Amérique et qui explique que l'Amérique est entendue leur discours, mieux peut-être qu'en Europe. Mais il faut ajouter autre chose. L'Amérique, mais c'est la déconstruction. Pourquoi Derrida dit ça ? Parce qu'il est fortement agacé parce que, mais sans jamais le dire, par politesse, parce que certains Américains, la majorité, je pense, de ses lecteurs aux États-Unis, ont fait de la déconstruction. Lui, il a toujours dit, la déconstruction, c'est ce qui arrive à la vérité. C'est ce qui arrive au sens, c'est ce qui arrive au texte. C'est un phénomène qui a lieu comme un phénomène, finalement, quelque part climatique, vous voyez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de facteur humain ou intentionnel dans cette affaire. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, les Américains ? Ils en ont fait une méthode de lecture des textes ou de lecture du monde. Je déconstruis, tu déconstruis, nous déconstruisons. Ce qui est contraire au concept d'origine de Derrida, qui est évidemment un concept non intentionnel. Donc, agacé par ça, et pour clore en quelque sorte le débat, il dit « la déconstruction n'est pas ce que vous faites, ni ce que je fais, la déconstruction c'est peut-être l'Amérique, après tout, pourquoi pas ?» C'est une façon, si vous voulez, de noyer le poisson. Et enfin, dernier élément, ce passage très célèbre est dans donc ce petit texte qui s'appelle « Mémoire pour Paul de Man », qui est une version longue du long discours d'hommage qu'a fait Derrida à son peut-être plus célèbre et plus grand lecteur et interlocuteur américain, qui est Paul DeMann. Donc c'est juste après sa mort. Mais il le fait au moment où éclate une controverse dramatique qui va beaucoup gêner Derrida, qui est qu'on découvre à la fin de la vie de Paul DeMann, enfin après sa mort exactement, qu'il a été collaborateur à l'époque où il était en Belgique et qu'il a tenu une chronique collabo appelant même à la déportation des Juifs dans le quotidien le soir à Bruxelles. Chose qui évidemment pour le juif Derrida est un peu problématique. Voilà. Mais c'est ces controverses-là, si vous voulez, qui vont faire la notoriété de la French Theory, puisque, vous voyez, une affaire comme celle-là, évidemment, on peut imaginer que les juifs conservateurs américains, mais aussi les humanistes de la culture classique dans l'université, mais aussi tous les ennemis de la French Theory, vont s'en saisir pour dire, vous voyez, le relativisme des valeurs, quand on commence à déplacer le sens, à déstabiliser la vérité, on finit collabo, enfin, ou on commence collabo. Voilà, et c'est aussi contre ça que Derrida et les autres auteurs, tous leurs exégètes, vont se battre pour dire non, déstabiliser le sens est une affaire progressiste, c'est aussi un combat, c'est aussi politique, c'est pas du tout ce nihilisme, voilà, crétin que vous en faites.
Mais là, nous parlons de Derrida, dans la French Theory, il y a aussi d'autres philosophes tels que Foucault, Deleuze, Barthes, Lacan dans une certaine mesure, qu'ont-ils en commun finalement ? Parce que ce que nous appelons la French Theory est, vous l'avez dit, plus un effet de mode qu'une volonté délibérée de la part de ses auteurs de former un groupuscule d'intellectuels qui seraient unis autour d'une même pensée. Finalement, il est même parfois, ces auteurs ont, sur le fond, pas grand-chose en commun. On peut arriver à tracer des lignes directives qui font qu'ils se rejoignent sous certains enjeux. L'importance de la structure, l'importance du signe, l'importance de la disparition du sujet dans l'action, on peut établir des grandes lignes, mais finalement, il y a pas grand-chose qui, sur le fond, conceptuellement, les unit.
Alors moi, je pense qu'il y a des éléments en négatif, ce qui est énorme, qui les unissent, et qui sont aussi des éléments circonstanciels, c'est-à-dire liés à l'époque, au contexte historique de leur éclosion intellectuelle, qui sont donc les années 60 à 80 françaises et européennes. Alors, mais cela dit, ça veut dire que le groupe est beaucoup plus large, parce que ces éléments en négatif rassemblent beaucoup de monde. C'est une critique de la philosophie classique et de sa tradition métaphysique, donc fondée, du fondationalisme, comme disent les Américains, c'est-à-dire des fondements de valeurs, de sens et de vérité, la raison, l'objectivité, etc. C'est une critique du sujet parlant, du sujet de l'humanisme libéral, du sujet de la philosophie triomphante jusqu'à Hegel et même après. Hein, ce sujet de l'histoire qui devient l'esprit mais qui est aussi le sujet individuel du consommateur et du citoyen. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on le voit plus clairement sans doute chez Deleuze et chez Foucault que chez Derrida, mais ça veut dire qu'il y a un infrasujet, on est multiple, on est nombreux, il y a des subjectivités collectives qui se déplacent. Il n'y a pas du tout le sujet du droit qui est voilà responsable devant la justice ou de la consommation que le libéralisme en a fait. Et puis il y a aussi une critique ça très importante de la représentation. Souvenir des mots et les choses, le grand livre de Foucault. L'idée, c'est que la culture classique et la philosophie classique s'est conçue comme représentation. C'est-à-dire, l'esprit rationnel du philosophe est une sorte de miroir, comme disent justement les Américains, de miroir de la vérité, de la nature, du monde. Donc, il représente, il y a une représentation possible de ce qu'est le monde dans l'esprit et dans la raison. Et il y a d'ailleurs une représentation possible du monde dans la peinture ou dans la littérature, hein, c'est aussi ça. C'est cette représentativité, représentation possible, que ces philosophes vont déconstruire, démonter de toutes les façons possibles. Alors, ces éléments négatifs ne suffisent pas à faire école, ne suffisent pas à les rapprocher, puisqu'on connaît les controverses nombreuses, ils sont tous contemporains, ils se connaissent, ils ont été proches dans certaines circonstances. Deleuze et Foucault ont été très amis pendant 15 ans sur des combats politiques importants, on a vu aussi Derrida voilà, prendre des mêmes positions, des mêmes engagements, mais il y a aussi des controverses. Moi je dirais que la principale qui les sépare, c'est la question du texte. C'est-à-dire que là où Derrida fait du texte, enfin fait de tout un texte, c'est pas un textualisme, hein, c'est une façon de dire qu'il y a partout de l'écriture, au sens où lui l'entend, c'est-à-dire de l'inscription de traces. Un Foucault et un Deleuze disent « attention, le texte c'est une machine, c'est une petite machine ou une grande machine, mais c'est une machine possible, il y a d'autres machinations ou machineries possibles, il n'y a pas que du texte ». Et ça les sépare très fondamentalement, parce que ça veut dire que Foucault et Deleuze parlent d'autre chose que d'écriture, là où Derrida voilà, passe tout par le prisme de l'écriture. Donc ils ne se sont pas beaucoup aimés intellectuellement de leur vivant, et pour autant ils ont voilà produit ensemble cette espèce d'école de produits théoriques cohérents aux États-Unis.
J'ai voulu traiter de la folie pendant cette période qu'on appelle l'âge classique, c'est-à-dire en somme du milieu du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Mais je crois que ce qui est le plus essentiel à comprendre, c'est le rôle très important que la folie a joué dans toute la culture occidentale à la fin du Moyen-Âge et jusqu'à ce qu'on appelle d'ordinaire l'âge baroque, c'est-à-dire en somme depuis le 15e jusqu'au milieu du 17e siècle. Au 16e siècle, au début encore du 17e siècle, on peut dire que la folie vivait à l'état libre dans la société. Le fou avait sa place, la folie avait son rôle, on rencontrait le fou qui circulait librement dans les rues, la folie avait au théâtre et dans la littérature une place privilégiée, un rôle. Elle était chargée souvent de dire la vérité, de manifester paradoxalement la raison. Et voilà qu'au milieu du XVIIe siècle, on la supprime. On la supprime et d'une façon institutionnelle très curieuse. On établit des grandes maisons d'internement qui valent non seulement pour les fous, mais pour tous les inutiles sociaux, pour tous les oisifs, pour les débauchés, pour les homosexuels, pour les pères de famille qui abandonnent leurs femmes et leurs enfants, pour les fils de famille qui gaspillent leurs biens. Bref, toute une sorte de sensibilité sociale se crée à ce moment-là, une sensibilité sociale qui n'est pas tellement la sensibilité à la folie que la sensibilité à tout ce qui pourrait gêner ou entraver l'établissement de l'ordre bourgeois tel qu'il est défini par le mercantilisme du début du XVIIe siècle. I used to see on every TV your smiling face look back at me. I used to see on every TV your smiling face look back at me. Then they caught you with the girl next door, people's money piled on the floor, accusations that you tried to deny, revelation and rumors begin to fly.
Écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h28 et c'est le troisième temps de notre semaine consacrée à la philosophie, ou plutôt aux États-Unis vus par les philosophes après Tocqueville lundi et Emerson et Cavalier. Aujourd'hui c'est de French Theory que nous parlons, c'est-à-dire de Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie, ainsi que des mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis. Ça c'est le titre du livre de mon invité. Mon invité est François Cusset et le livre se trouve aux éditions de La Découverte. Alors ce qui est passionnant quand on se penche sur ces auteurs, ces philosophes français, la manière dont ils ont été reçus aux États-Unis, François Cusset, c'est qu'on a parfois l'impression qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, d'un autre philosophe. En l'occurrence, on a entendu un extrait de Foucault qui parlait de la folie, c'était un extrait de 1961 de l'émission Enquête et Commentaires. En écoutant Foucault raconter comment la raison a dans l'histoire marginalisé la folie afin de s'ériger comme seule norme, eh bien on pourrait... En France, on entend cette intervention-là comme étant, disons, une sorte d'appel ou un élan vers quelque chose de contestation de tout pouvoir, et quelque chose qui serait peut-être qui conduirait vers le scepticisme. Quand aux États-Unis, le Foucault, disons, américain, est conçu comme le penseur de la philosophie pratique, mais aussi, disons, vraiment politique. Il y a un côté d'appel à un engagement politique qui est beaucoup plus fort qu'en France, que la manière dont il est reçu en France.
Oui, oui, c'est vrai. Michael Foucault, on pourrait dire.
C'est Michael, évidemment.
Il y a cette photo très émouvante où on voit Foucault, je crois que c'est sa dernière intervention aux États-Unis. Il a donc évidemment déjà le sida et est très, très malade. Et on le voit entouré de ses étudiants à Berkeley. Et comme lui qui était si grand et fort, comme écrasé par son chapeau texan, là, son Stetson, donc c'est le Stetson de Foucault. Voilà, c'est la version américaine. Il a biographiquement, même si c'est un peu anecdotique, tellement aimé cette liberté, voilà, cet ailleurs, ce dehors, par rapport aux pressions, aux institutions françaises.
Vous le comparez à Steve McQueen, hein, dans votre livre. Si ça devait être un acteur hollywoodien, ce serait Steve McQueen, pourquoi pas, oui.
Oui, oui, aussi pour la question de la prison, si centrale. Ouais. Alors. C'est compliqué ces histoires de réception différentes, parce que d'abord il faut être très concret, ce ne sont pas les mêmes œuvres de Foucault par exemple qui sont lues, en tout cas mises en avant et centrales aux États-Unis et en France. Je dirais, pour faire vite, que aux États-Unis, c'est surtout le Foucault du milieu, en quelque sorte, c'est-à-dire le Foucault des mots et les choses, et surtout après, le Foucault des disciplines, c'est-à-dire qui explique comment un ensemble d'institutions disciplinaires ont formé, conformé, réprimé les comportements, voilà, et les sociétés occidentales à partir du XVIIe siècle, même si Naissance de la folie, qui dit ça sur les asiles, est pas un livre très lu aux États-Unis, en plus c'est un livre publié très très vite, donc avant la French Theory en quelque sorte, mais c'est plutôt la prison, l'hôpital, question centrale justement, qui va être remise en œuvre par les luttes justement des malades du sida dans les années 90 contre les laboratoires pharmaceutiques, vous voyez, ACT UP, etc. Et c'est une mise en œuvre politique assez directe des propositions de Foucault, y compris, alors au risque, là aussi je dirais, du contresens, ou même de la contradiction éthique, par exemple dans les mouvements gays et lesbiens, dans les mouvements identitaires, homosexuels, ou post-identitaires, type mouvement queer, hein, on est tous un peu ambigus, on en est tous. Bon, ces mouvements-là se réclament d'une certaine critique foucaldienne de la sexualité, des normes sexuelles. Bon,
et lui s'en défend, hein, lui il est plutôt réticent à être récupéré, dans le sens peut-être le plus amélioratif du terme, hein, par des mouvements qui diraient, voilà, Foucault nous guide, c'est comme un guide de vie, il prescrit une forme d'éthique, hein, lui dit bien qu'il ne veut absolument pas imposer son système à quiconque.
Oui, ça c'est effectivement les anecdotes de la fin de sa vie, là aussi, que je raconte, qui sont ces conférences avec des milliers d'auditeurs où on lui pose des questions, comme s'il était Sénèque, et il répond, mais il n'est pas question de vous dire comment vivre, moi je fais une enquête sur les procédures de la vérité, hein, c'est l'œuvre d'une vie, et je ne suis pas du tout là pour vous faire de la philosophie médicament, si à la mode aujourd'hui. Donc là, il y a effectivement une différence avec sa réception française. Sa réception française, et plus, c'est le début et la fin de l'œuvre, c'est justement Naissance de la folie, c'est justement ce livre très touffu, très littéraire, très un peu fou aussi à sa
façon.
L'histoire
de la folie.
Dont on connaît donc la thèse générale, qui est que la folie a produit la raison. Hein, la raison est née d'une certaine délimitation de la déraison. Hein, c'est à partir du moment où on a réprimé l'anormal qu'une norme a pu être produite. Donc il inverse ce qui semblait logique avant lui. Et puis le tout dernier Foucault, c'est-à-dire le Foucault des derniers cours au Collège de France, le Foucault des notions majeur pour aujourd'hui, mais encore ambigu chez lui, parce qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son œuvre, hein, il est mort prématurément, que sont la biopolitique, hein, le biopouvoir, le néolibéralisme, tout ça. Ce Foucault-là est moins américain, étrangement. Donc c'est vraiment davantage la discipline. Et alors, ce qui les obsède, les Américains, c'est qu'il y a de la discipline partout. Alors, exemple d'une interprétation très littéraire et très américaine de Foucault, il y a par exemple un livre qui dit « Le roman ». La forme romanesque, hein, cette vieille forme culturelle qui nous intéresse tous, est une discipline, est une prison, est un hôpital, est un asile, nous force à suivre certaines normes, enferme les personnages. Donc c'est une déconstruction du roman comme si c'était une institution disciplinaire. Pourquoi pas ?
Mais voulons appliquer à la lettre ce que Foucault dit du pouvoir, du micro-pouvoir, à savoir le pouvoir n'est pas le monopole de l'État ou d'une institution surplombante, mais se trouve partout, dans tous les rapports de force.
Voilà, mais ça veut dire qu'on prend une institution métaphorique, parce que le roman n'existe pas en dur, hein, là je tape sur la table, mais un roman, ça fait pas de bruit, ce que Foucault faisait de la prison, de l'hôpital, voilà, qui sont eux, qui sont elles des institutions réelles. Ça résume pour moi le malentendu et le biais américain. C'est-à-dire, peut-on vraiment métaphoriser Foucault jusque-là ? Je ne sais pas. En tout cas, ça a produit de façon plus conflictuelle des œuvres majeures. Foucault a évidemment inspiré. C'est sans doute l'inspiration la plus directe d'œuvres comme celle de Judith Butler, dont on peut parler. Yves Sedgwick aussi, la grande théoricienne justement des mouvements queer dans les années 90, qui sont des lectrices de Foucault et très originales.
Et alors justement, vous parlez de lectrices dans les philosophes dont nous parlons aujourd'hui de la French Theory, il n'y a quasiment que des hommes dans les voix que nous avons. Il y avait aussi des femmes qui étaient étudiées. Je pense à des personnes comme Hélène Cixous, par exemple, Lucie Rigaret, des Françaises qui sont finalement peu étudiées en France et beaucoup plus aux États-Unis. Mm-hmm. Comment explique-t-on que ces femmes philosophes soient plus connues aux États-Unis qu'en France? Et deux, la façon qu'ont les femmes philosophes américaines de s'être ressaisies de la pensée, notamment de Foucault, puisque vous avez parlé de lui, de manière beaucoup plus féconde que ça n'a été le cas en France. Est-ce qu'ici c'est une différence simplement de culture ou comment on le comprend?
Bah, il est évident que la French Theory s'est développée aux États-Unis en même temps que arrivait dans l'université la question du politiquement correct, de la parité, de l'égalité des sexes, etc. Et qu'il fallait dans les colloques, dans les cours, et heureusement et justement, faire place aux penseurs, aux critiques et aux profs femmes. Et donc dans cette importation de la French Theory, ça manquait de femmes. Donc ils ont fait une place plus importante que nous ne l'avons fait en France.
Parce que nous, on n'a pas eu la même chose en France, ça c'est sûr. Il n'y a pas eu cet appel à la parité.
Clairement pas. Mais alors là, j'ironiserai tout de suite à la Derrida. C'est-à-dire, mais nous qu'avions lu Foucault et Derrida, qu'il n'y avait pas d'hommes et de femmes clairement
distinguer. Que le sujet n'était pas genré.
Voilà, que vous n'êtes peut-être pas une femme et je suis peut-être pas un homme. Et que donc, comme disait Derrida, Nietzsche est une femme. Nietzsche est enceinte de lui-même, Nietzsche est une femme. Donc, si on va jusque-là, alors le sexe ratio des grands colloques américains, on n'est pas obligé de le suivre. Bon, mais ils vont pas jusque-là. Et il est évident qu'ils avaient besoin d'entendre ces voix de femmes, qui sont aussi des voix minoritaires, parce que on peut aussi, plus sérieusement, résumer toute cette aventure de la French Theory autour du concept de minorité, concept très cher à Deleuze. C'est finalement les cultures, les identités, les politiques minoritaires qui se sont saisis de ces œuvres très subversives, très critiques de la norme majoritaire, pour refonder un programme politique d'affirmation de la minorité, qu'elle soit africaine-américaine, qu'elle soit latino, qu'elle soit gay et lesbienne, qu'elle soit postcoloniale, ou qu'elle soit simplement subversive de façon générale. Donc c'est la question minoritaire. Il va de soi qu'en philosophie, oui, hélas, la femme est minoritaire.
Freud, il dit, tiens, 6 ou 7 loups, c'est pas normal, ça, quand même. Ah, bon. Mais après tout, là, il sollicite un peu, et l'homme au loup dit, mais oui, quand j'étais petit, j'ai lu un conte qui s'appelait Le loup et les 7 chevreaux. Vous voyez l'opération, c'est terrible. Voilà que les loups sont en train de perdre leur multiplicité au profit de chevreaux qui n'ont rien à faire avec l'histoire. Absolument rien. Et dès lors, il n'y a plus 6 ou 7 loups, il n'y a plus qu'un loup. 7 loups jôtent 6 chevreaux, reste un loup. Et le loup, c'est quoi? Eh bien, on y est. C'est le chien du psychanalyste, à savoir, c'est ton papa.
François Cusset, vous parlez de l'importance du concept même de minorité dans ce qu'on appelle la French Theory. Eh bien, Deleuze, puisqu'on vient d'entendre sa voix, un extrait du cours de 1969 qui fait beaucoup rire ses étudiants. Il est en France à ce moment-là, on imagine qu'il faisait autant rire ses étudiants américains. Deleuze, aux États-Unis, à cette époque-là en tout cas, est considéré comme le plus grand défenseur de la littérature dite minoritaire. Et on le retient surtout pour ses analyses de Kafka et de Proust, et on en fait même une espèce de philosophe, disons, qui presque sexologue, qui s'intéresse beaucoup aux histoires de érotiques au sein de littérature jugée minoritaire.
C'est vrai qu'il a fait c'est un peu plus tard ce livre sur sa Kermazok. Bon,
voilà, c'est ça. Mais là, on voit l'énorme contresens, enfin contresens. Je veux pas.
En tout cas, déplacement. Une rectification, mais c'est pas grave. En 69, Deleuze n'est il n'y a pas une ligne de Deleuze traduite en anglais.
Voilà, donc c'est ça, il n'est pas encore connu.
Est inconnu, il est absolument inconnu. Ça va venir au cours des années 70, de façon un peu marginale, contre-culturelle. Il va arriver par des voies très étranges et devenir plus institutionnel plus tard. Et le Deleuze qu'on entend là, effectivement, qui est jouissif et jubilatoire, qui est le Deleuze du devenir animal.
Cabotine.
Voilà, et qui surtout va donner, 2 ans plus tard, l'anti-Oedipe avec Guattari, puisque quand il compare le psychanalyste au chien et le père au loup, bon, et on voit bien là qu'il en a contre la psychanalyse. L'histoire de Deleuze en Amérique est la plus étrange de toutes, en fait. Plus que Foucault, plus que Derrida. C'est sans doute pas l'influence la plus profonde, parce qu'elle est trop dispersée. Il n'y a pas un deleuzisme. Et heureusement, qu'est-ce qu'il détestait les ismes. Lui, il pensait que les commentateurs sont des gens du ressentiment. Il faut produire des concepts. Vaut mieux être musicien, géomètre ou architecte que philosophe, tant qu'à faire. Par contre, il y a une réception de Deleuze comme un philosophe de science-fiction. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que si on découpe, qu'on fragmente, qu'on prend des mots ici, des personnages conceptuels par là, des drôles de formules ailleurs, etc., parce qu'il a un langage très étrange, Deleuze, il a quand même inventé, notamment avec Guattari, une langue philosophique nouvelle, hein, le micropolitique, le moléculaire, le molaire.
Déterritorialisation.
Voilà, c'est aussi difficile à prononcer en anglais comme en français. Et du coup, avec cette langue-là, si neuve, les objets dont il parle, qui sont très contemporains, hein, capitalisme et schizophrénie, c'est le sous-titre de leurs deux grands livres avec Guattari, l'Anti-Oedipe et Émile Plateau, bah, ça devient un personnage de science-fiction, mais alors attention, science-fiction au sens de ce que la science-fiction est en train de devenir aux États-Unis à la même époque, dans les années 80-90, c'est-à-dire plus du tout un genre qui vous parle du futur lointain ou comme dans Star Trek, d'une étoile lointaine, un genre qui vous parle du monde souterrain qu'il y a sous nos pieds, invisible, et qui pourtant nous fait être. C'est-à-dire, il y aurait un secret caché, il y aurait soit un ordinateur comme dans Matrix, hein, grand film pop de la French Theory. C'est ce Deleuze-là, ce Deleuze de science-fiction, ce Deleuze d'une langue absolument neuve, un peu échevelée, qu'on comprend mal, qui va obséder les Américains et obséder les critiques universitaires en cravate, mais aussi les DJ des années 90, les plus avant-gardistes.
Il faut dire aussi que les philosophes français dont nous parlons sont arrivés dans les universités américaines à travers le département de littérature. De philosophie.
C'est très très important. C'est-à-dire que toute cette histoire n'existe que à partir du conflit des facultés, comme disait Kant, et comme disait Bourdieu, parce que les facultés, c'est pas que les facultés humaines, c'est aussi les facultés de l'université. Mmh. Ça, c'est vraiment le fond de l'affaire. Enfin, c'est, disons, la raison matérielle, un peu triviale, mais c'est quand même la vraie cause de tout. Dans les années 70, reflux des contre-cultures et de la belle époque des mouvements de jeunesse, crise économique, il y en a deux quand même, de chocs pétroliers majeurs, début du chômage, les étudiants américains, de plus en plus nombreux, quittent les départements de littérature, voire d'humanité en général, pour aller faire des choses utiles où on trouve un boulot, hein, du droit, des affaires, des sciences, etc. Il s'agit donc de les ramener vers les disciplines des humanités, puisque c'est une concurrence économique très simple. Eh bien, on peut dire que les littéraires vont se saisir des auteurs français, de leur toute première traduction, du caractère un peu secret, mythique, comme ça, culte, étrange de leurs œuvres, pour réenchanter la littérature, pour attirer vers les départements de littérature les étudiants, et pour proposer aux étudiants et à tous les intellectuels américains, en quelque sorte, de critiquer toutes les autres disciplines à partir de la littérature. Parce que finalement, c'est ça que fait la French Theory en Amérique. Elle propose, par exemple, c'est le tout premier livre de Judith Butler, c'est sa thèse, de dire que toute la philosophie française du XXe siècle serait un vaste récit. Oui, vous avez bien entendu, un récit. Elle dit même un Bildungsroman.
C'est Lyotard, hein, qui insiste sur l'importance du récit.
Bien sûr, ouais. Alors elle parle de Lyotard, elle parle de Deleuze, mais il s'agit de montrer que la philosophie peut aussi être lue comme quelque chose de narratif, une histoire de la vérité avec des personnages qu'on peut déconstruire comme tel. Ou alors, si c'est pas le narratif, c'est le linguistique, hein, avec Derrida, pour montrer que, vu comment la linguistique s'est trompée, puisqu'elle n'a pas saisi que tout échappait en permanence, tout le signifiant était en excès sur lui-même, alors le sens du texte philosophique ne nous atteint pas, et alors les linguistes vont pouvoir commencer à déconstruire. Donc vous voyez, linguistique,
d'où là l'importance de Barthes, dont on n'a pas parlé aussi.
Oui, tout à fait, mais ça veut dire que c'est les littéraires qui vont jeter un soupçon immense sur la discipline philosophique, aux États-Unis c'est plutôt positivisme logique et pragmatisme, mais aussi la sociologie, mais aussi l'histoire, mais aussi toutes les disciplines des humanités, au nom d'un point de vue littéraire, en quelque sorte armé de concept de la French Theory.
Oui, c'est ça, il faut se défaire des catégories françaises qui divisent la littérature d'un côté et la philosophie de l'autre, puisque là, ce que vous dites, c'est que les deux sont liés, parce que c'est par le biais de l'intérêt pour la langue et pour l'écriture qu'on va pouvoir s'intéresser à des intellectuels qui proposent des concepts.
Oui, c'est-à-dire que là où, en France, on pourrait dire que la philosophie, discipline reine, en quelque sorte, enveloppe, totalise la littérature est en quelque sorte coiffée
de l'illustration de concepts.
Voilà, ouais. C'est l'inverse qui a lieu aux États-Unis, au sens où on littérarise la philosophie, on en fait un texte bizarre et ambigu, un ensemble de propositions principalement stylistiques et un récit, au lieu d'être un ensemble rationnel de concepts.
Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que là, on parle de la French Theory au moment où elle a commencé, disons, on ne l'a pas dit, hein, peut-être l'élément fondateur à l'université d'Hopkins en 66,
Le colloque,
et qui ensuite est suivi par deux décennies, sans doute, d'études de ces intellectuels. Aujourd'hui, est-ce que ce qu'on appelle la French Theory est-elle minoritaire? ouvert dans les universités américaines? Est-ce que ce qu'on appelle la philosophie analytique est plus importante que la French Theory, ou est-ce que les deux finalement font plutôt bon ménage?
Alors tout évolue, hein, tout change sous le temps. Moi, la conclusion que j'apportais quand j'ai écrit le livre, il y a donc maintenant une douzaine d'années,
oui, 2003, oui.
Voilà, c'était que déjà on pouvait dire que, en quelque sorte, la French Theory, ou la théorie en général, ce qui est pas pareil, est rentrée dans le rang. C'est-à-dire qu'à la fois elle est installée dans les programmes de cours, on l'étudie, on lit les textes de Foucault et de Derrida, même si c'est des anthologies. Donc il n'y a pas de déclin, il n'y a pas de reflux, mais ça n'est plus du tout le phénomène de mode et l'objet ultra polémique que ça a été à la fin du XXe siècle. Donc ça fait plus de vagues, voilà, en quelque sorte. Et il faut ajouter un truc essentiel, mais ça, c'est un truc qui nous intéresse, nous, Français, c'est que cette French Theory est sans successeur en France. À la fois successeur au sens de gens qui auraient prolongé le travail théorique de ces grands auteurs, mais aussi de philosophes français contemporains qui seraient à la hauteur, disons, d'audace conceptuelle et de célébrité mondiale d'un Derrida et d'un Foucault il y a 30 ans. D'accord. Donc du coup, là, c'est la France qui est rentrée dans le rang.
Un philosophe comme Jean-Luc Nancy est extrêmement traduit aux États-Unis.
Il l'est, mais de même que Alain Badiou, Jacques Rancière, qui sont des philosophes importants. Mais ce qui va de soi quand on va dans l'université américaine aujourd'hui, c'est que maintenant, on importe, on traduit et on discute des textes d'auteurs du monde entier. Les Italiens, Agamben et Negri, les Indiens des Subaltern Studies, parce qu'il y a aussi tout l'enjeu intellectuel du sud de la planète, les Anglais, voilà, les Allemands. Donc, il n'y a plus ce statut à part, hein, de la philosophie française, une sorte de plus échevelé et subversif de la Frenchitude. Hein. Tout ça est terminé. Et effectivement, de ce point de vue-là, la French Theory est rentrée dans le rang, ou plutôt, elle a donné naissance à la théorie, objet immense, indéfini, qui peut donner, encore une fois, des concerts pop, des lectures étranges, voilà, ou des choses pluridisciplinaires, et qui n'est plus du tout français.
Et vous, est-ce que vous y croyez aux fantômes?
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave. But oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy.
Un grand merci à vous, François Cusset, d'être venu nous parler de cette French Theory aujourd'hui. French Theory pour les Français, FT pour les initiés. Donc, je renvoie à votre ouvrage, Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, qu'on trouve aux éditions de La Découverte. Paraîtra le mois prochain La droitisation du monde, une conversation entre vous-même, François Cusset, et Régis Mérand. Ce sera aux éditions textuelles. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h48. Encore deux minutes, Papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie, qui aujourd'hui nous parle d'un livre que j'aperçois ici sur la table du studio, au titre magnifique. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Sans la raison, nous ne sommes que folie.
Oui, c'est un texte de Cicéron et c'est paru aux très jolies éditions Alia.
Salut François. T'as du feu?
Ouais.
Ça a l'air d'aller, toi?
Ouais, ça va, ouais. Toi?
Bah non, ça va pas du tout.
Je te dérange pas là, j'espère.
Non. En fait, j'espère te déranger parce que comme ça, on serait deux à être dérangés, tu vois. Ce serait bien ça. Non, ça va pas du tout.
Quand on regarde ce film de Laurence Ferreira Barbosa, on peut être fasciné. Fasciné par le personnage de Martine, qui n'arrive pas à digérer sa rupture avec François. Fasciné parce qu'elle ne s'en cache pas, parce qu'elle va très mal et le dit, et espère d'ailleurs déranger en le disant. Face au personnage dérangé de Martine, nous sommes donc tout aussi dérangés. Mais qu'est-ce qui peut déranger dans cette facilité à dire que l'on va mal? Qu'est-ce qui peut finalement déranger dans cette situation assez ordinaire qui est d'aller mal? Mais revenons en arrière, bien avant Martine. En 46 avant notre ère, le stoïcien Cicéron écrivait six paradoxes qu'il dédiait à son ami Brutus et que l'on peut découvrir, comme je l'ai dit, aux jolies éditions Alia. Avec ces paradoxes, Cicéron se donnait pour but d'exposer des idées qui ont tout du lieu commun mais qui pourtant dérangent ses concitoyens dès qu'il leur énonce. Ainsi, et de la même manière que le film qu'on a entendu montre une situation tout à fait ordinaire mais dérangeante, de la même manière que son titre, les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel, n'énonce rien qu'une vérité, Cicéron veut lui aussi faire la lumière sur ce qui devrait être admis. Comme par exemple, dire qu'il en va des fautes comme des bonnes actions, les deux sont bien égales, comme par exemple aussi dire que la beauté morale est le seul bien valable, ou encore comme affirmer que sans la raison, nous ne sommes que folie. De la folie de Martine donc à la sagesse de Cicéron et inversement, voilà la leçon de ces paradoxes, et peut-être du paradoxe même, et c'est le philosophe stoïcien qui le dit, se moque de moi qui veut, à mon sens, l'authentique raison aura pourtant plus de valeur que l'opinion de la multitude.
Je partage sans réserve votre enthousiasme pour les éditions Alia, Géraldine. Donc Cicéron, sans la raison.
Nous ne sommes que folie.
Magnifique. À retrouver en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. Merci à vous, Géraldine. Merci, François Cusset, pour cette émission. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée aux États-Unis vues par les philosophes. Et bien demain, nous parlerons de Donald Trump. Et si Trump avait tout compris? C'est la question que nous nous poserons en compagnie de Romain Huret. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur nos pages Facebook et Twitter où le compte des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour.